merci Brian. J'ai plus rien à dire là. Je pense que c'est vrai. Hein? Je vais mettre ça comme ça. Oui, c'est vrai. Excuse Robert. Ça ferait bien. Hein? Ah, oh, ça va prendre le piton. Hein? On s'est fait hacker aussi, je pense, là.
Un autre million.
Un autre million. Oui, supposé de... Ça prend des experts. Ah, il est là, là. Es-tu rendu? On l'a trouvé, Jonathan. Hey, merci, Robert, Jonathan. C'est vrai qu'il y a plein de choses des fois qu'on... Hein, on est content qu'il y ait du monde pour nous aider. Comme quelqu'un disait, on est tous ignorants, mais pas de la même chose. Hein? Ça fait qu'on ne doit pas se sentir mal à l'aise. Des fois, on se sent mal à l'aise qu'on ne connaît pas quelque chose. Bien, il y a toujours moyen de l'apprendre, toujours moyen de quelqu'un pour nous aider. Alors... Frères et sœurs, bien, je suis content moi aussi de vous voir ce matin. On se voit, hein, la semaine passe, on est dans nos activités, le travail, tout ça. Puis, on a l'occasion là matin d'être ensemble. Puis, c'est sûr, hein, vous avez le titre Artisan de paix, hein, ça fait depuis le 24 septembre dernier déjà, ça va vite, ça va faire bientôt 3 mois qu'on est sur ce sujet où ce que Richard un peu nous a témoigné, Brian aussi tantôt. La résolution de conflits, et puis bien sûr c'est basé sur un livre. C'est sûr qu'on a le privilège aussi de, on se sert du livre, mais en même temps, bien, on apporte notre touche personnelle aussi, hein, parce qu'on essaie de personnaliser ça. On apprécie le livre beaucoup, et puis ce matin, bien, on va poursuivre dans cette direction-là. Monsieur Ken Sandy qui a fait le livre « L'artisan de paix ». Donc, on peut dire que c'est de l'information éprouvée à travers un ministère, à travers plusieurs années. Je ne sais pas s'il le fait encore. Il doit quand même être assez âgé, j'imagine. Possiblement que le ministère se poursuit aussi. Donc, on peut dire que c'est éprouvé, ça a été testé. Ça fait qu'on peut le prendre, puis on peut l'utiliser à bon escient, parce que ça a été éprouvé. Puis bien sûr, bien, M. Sandy... tire ça de la parole de Dieu, c'est que ça aussi, c'est le point majeur. Alors, ce matin, bien, on poursuit là-dedans. Et c'est sûr, bien, comme on dit, on est des auditeurs oublieux, on a besoin de se rappeler des choses, pas juste pour se le rappeler, mais en même temps, on veut surtout que ce rappel-là nous amène à passer à l'action. Hein? Comme Brian a fait, il a eu l'occasion de passer à l'action, puis on réalise que quand on passe à l'action, bien, c'est difficile. Hein? On a vraiment besoin de l'aide de Dieu, et puis, mais quand on y va, on met le pied là-dedans, bien, on compte sur Dieu, puis Dieu nous soutient, et puis Dieu nous fait progresser. Puis, si on regarde Brian, bien, quelque part, il y a eu une résolution, il y a eu quelque chose de beau, et puis c'est ça qu'on veut vivre aussi. Quand on est en conflit, on espère que le conflit va se résoudre, et puis on veut participer à ça, bien sûr. Et pour se rappeler, bien, l'auteur, pour nous aider à se souvenir, pour mettre en application, bien, vous vous souvenez, il utilise une lettre de l'alphabet, est-ce que vous vous souvenez, c'est laquelle?
Le R.
Le R, hein? Le R, effectivement, pour récession. Non, non, c'est M. Girard qui a parlé de ça. Hein? On n'est pas dans la récession. Donc, l'auteur utilise des R. Ça nous permet de se souvenir, de se rappeler des points, même si on ne connaît pas tout, on ne se souvient pas de tout ce qui a été dit, mais on se souvient de l'élément important. Puis à partir de ça, bien, on peut se rappeler, puis on peut prier là-dessus, et puis on veut passer à l'action, comme je disais. Alors, est-ce que le premier, vous vous souvenez, là, c'était quoi le premier R? Rendre gloire à Dieu. Hein? Je pense qu'on commence à s'en souvenir. Comme je vous dis, l'idée de ça ce matin, ce n'est pas de vous tanner encore avec des choses. Mais comme je dis, moi, personnellement, bien, j'oublie, puis j'ai besoin de me rappeler. Puis je veux le prendre, dans le fond, dire « je l'ai oublié » ou « je m'en souviens moins ». Je m'en rappelle pour dire, comme on a dit, on veut le mettre en application, on veut le vivre. Et puis, bien sûr, bien, rendre gloire à Dieu, on avait vu que, dans le fond, l'auteur nous parlait des conflits, parce que les conflits, bien, c'est présent partout. On en vit, puis des conflits, bien, c'est pas juste autour de nous, bien, on peut en vivre ici, dans l'Assemblée, on peut vivre des conflits, puis on va en vivre encore, puis c'est des choses qui vont être là, mais au moins, on a des outils pour nous aider à cheminer dans tout ça. Et puis, c'est sûr, on avait vu, dans le fond, que le plus grand conflit, quand on regarde les Écritures, c'est lequel? C'est avec Dieu. Un conflit majeur avec Dieu, l'être humain séparé de Dieu, besoin d'être réconcilié, pardonné. Puis, grâce à Dieu, bien, gloire à Dieu aussi, bien, il a pris l'initiative. Il est venu à notre rescousse. Il est venu, par l'entremise de son Fils, donner, Jésus est venu donner sa vie volontairement, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Hein? Quand on lit Éphésiens, il nous dit qu'on était éloigné de Dieu, on était rapproché de Dieu. On a accès à Dieu maintenant. C'est merveilleux. En tout temps, on peut s'approcher du trône de la grâce en tout temps. Or, le plus grand conflit, bien, on comprend que c'est avec Dieu. Et puis, gloire à Dieu, bien, il a résolu ce conflit-là. Et puis, de comprendre ça aussi, bien, on voit que à travers notre frère Brian, qui nous avait emmené ça, vous vous souvenez aussi, bien, on comprend que si Dieu, ça a été important pour lui de résoudre ce conflit-là qui est majeur, bien, nous aussi, en tant que croyants, bien, on est appelés aussi à la réconciliation. Hein? Il nous a donné ce ministère-là de réconciliation. Puis donc, on est appelés à l'annoncer à ceux qui sont loin de Dieu, qui ne sont pas en paix avec Dieu, puis entre nous, bien, à le vivre aussi. Avec nos proches, nos familles, hein, les collègues de travail, tout ça. On est appelé à le vivre. Et ce matin, bien encore, on veut s'encourager à aller vers ça. À comprendre que pour Dieu, bien, c'est cher à son cœur. Donc, pour nous aussi, bien, est-ce que c'est cher à notre cœur aussi? Puis dans tout ça, on comprend, bien, c'est sûr, quand on vit des conflits, c'est pas facile. Hein? C'est émotif, on est blessé. On ne comprend pas des fois des choses. Ça fait que c'est sûr qu'il faut voir ça comme un processus. Ce n'est pas instantané. Mais on a le privilège que Dieu nous accompagne dans ça. De jamais oublier ça. Puis de toujours viser ça, même si pour l'instant ça peut être difficile ou on n'en a pas le goût. Donc, annoncer aux gens le besoin d'être réconciliés, bien, ce soir, bien, il y aura des gens qui vont avoir le privilège de recevoir ce message-là de la réconciliation par un geste d'amour. C'est merveilleux. Puis aussi, bien, à vivre en paix, si possible, comme Romains 12, 18 nous dit, bien, à vivre en paix avec les gens qui nous entourent autant que cela est possible. Donc, rendre gloire à Dieu, bien, si on comprend bien, bien, c'est sûr, ce matin, on est ici, on veut rendre gloire à Dieu, on rend gloire à Dieu par nos chants, on rend gloire à Dieu par nos paroles, nos actions, mais si on comprend bien à travers ça, rendre gloire à Dieu, bien, c'est justement prendre à cœur de résoudre nos conflits. D'avoir ça à cœur, c'est cher. Donc, quand on fait ça, on glorifie Dieu. Puis notre frère nous l'avait bien emmené, souvent on perd ça de vue, que quand on a ça à cœur, bien, on glorifie Dieu dans ça. Donc, ça, c'est le premier R. Le deuxième R, bien, retirer la poutre de son œil. Puis, Puis notre frère Robert bien nous avait parlé, vous vous souvenez, que les conflits, en général, ça débute où? Chez le voisin. Ça débute dans nos cœurs. Puis c'est vrai que quand on s'assoit puis on réalise ça, c'est vrai que c'est important. On réalise qu'il y a quelque chose dans notre cœur qu'on n'a pas eu, qu'on aurait dû recevoir, possiblement. Peut-être que la personne a manqué d'attention, de considération, et ça nous a fait mal. On aurait aimé recevoir ça, on ne l'a pas eu. Mais en même temps, bien, on réalise que ce qui nous amène en conflit, bien, c'est ça. Vu qu'on n'a pas eu ça, bien, on réalise que c'est parce que notre cœur est exigeant. Ce qu'on aurait dû recevoir, on y tient. On l'exige. Puis là, bien, ça va nous emmener dans toutes sortes de choses. Un cœur non satisfait que M. Sandy nous parle, que les Écritures nous parlent aussi, qui nous conduit dans les conflits. Et on a vu, bien, un conflit naît toujours par un désir. Naît toujours par un désir. Et on comprend qu'un désir peut être bon ou mauvais. Hein, on se souvient, l'autre fois, je vous avais parlé de ça, hein, le roi David, il a eu un désir d'intimité avec Bathsheba. Est-ce que c'était bon, ce désir-là? C'était pas bon. Pourquoi? C'était une femme qui était déjà, qui avait un mari. Mais s'il y aurait eu un désir d'intimité avec sa propre femme, super. Mais ça peut devenir mauvais aussi parce que je l'exige. Ça peut devenir une exigence. Donc, tout désir peut devenir une exigence. Tout désir n'est pas nécessairement mauvais, mais il y a des mauvais désirs, on comprend ça aussi. Puis les bons désirs aussi peuvent devenir mauvais quand que on l'exige. Ça nous le prend à tout prix. Tu me le dois. Et on a vu aussi bien que ce désir-là non obtenu, qu'est-ce que ça fait dans notre cœur? Souvent, ça nous amène dans le jugement. On va juger la personne. Et lorsque la personne ou les personnes ne satisfont pas à nos désirs et qu'ils ne vivent pas à la hauteur de nos attentes, qu'est-ce qui arrive? Bien, on risque de les critiquer. On les condamne dans notre cœur. Et si on ne le fait pas par nos actions et nos paroles. Comme M. Paulison, qui le citait, là, un auteur bien connu, il dit, « Nous jugeons les autres, nous les critiquons, nous les harcelons, nous attaquons, nous condamnons, nous punissons, nous faisons souffrir, on se retire de la relation, etc., etc. » Et tout ça parce qu'on a voulu avoir quelque chose de cette personne-là, puis elle ne nous l'a pas donné. On avait vu également, notre frère Brian nous avait parlé également, quelque chose pour nous aider aussi, c'était la règle d'or, donc un autre R. Hein? Vous vous souvenez de la règle d'or? Qu'est-ce que c'est? Relâcher la dette, c'est pas tout à fait ça. Pardon? Exact. Faire aux autres ce que l'on voudrait qu'on nous fasse nous-mêmes. Et non pas ne pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas. Hein? Faire aux autres, c'est beaucoup plus engageant. Hein? Moi, je peux dire, je fais rien, parfait. Mais là, si je veux faire quelque chose, oh, là, ça m'implique. Donc, on comprend que le Seigneur, quand il dit ça, dans le fond, il résume le deuxième grand commandement qui est d'aimer. Quand on fait ça, on aime notre prochain. Et c'est les deux grands commandements que le Seigneur, dans le fond, nous a laissés, de aimer Dieu puis aimer notre prochain. Et quand on fait ça, bien, on aime notre prochain. Et bien sûr, bien, c'est ça, quand on laisse justement ce désir-là qui devient une exigence puis que j'y tiens tellement, bien, à ce moment-là, Dieu n'a plus de place là-dedans. C'est là qu'il devient une idole. J'y tiens à ça, là. Et puis j'y tiens mordicus. Et quand je suis rendu là, bien, c'était impossible d'aimer mon prochain. Impossible. Parce que Dieu n'est plus là. Mon focus est sur l'idole de mon cœur qui demande d'être assouvie. Et je deviens exigeant, je demande, j'exige, je juge, je punis. On n'aime pas, donc nous péchons quand on fait ça. Ça, on ne s'en rend pas compte. Hein, souvent, on s'arrête sur les grands péchés là, pour dire, bien, je ne vole pas, je ne tue pas. Mais quand on n'aime pas, le Seigneur, il dit, tu pèches. Nous péchons. Il y a deux semaines aussi, bien, notre frère Brian nous a, d'une manière quand même, je dirais, très visuelle, hein, illustré ce principe. Donc, notre sœur Esther qui nous disait « relâcher la dette », donc c'est un autre horaire, relâcher la dette que l'autre vous doit. Et puis, je ne vous le résumerai pas, en fait, je vous encouragerai plutôt, je pense, j'aurai horreur de la misère à résumer ou à reproduire ce que notre frère a fait, hein, vous vous en souvenez. Il l'illustrait vraiment bien. Alain est obligé d'aller voir si le mur il était solide après. Hein, notre frère, là, il nous avait bien illustré ça. Là. Ça fait que si vous écoutez l'enregistrement, des fois, bien, soyez pas surpris, ça donne des coups. Là. Ça vient de... C'est notre frère qui nous avait bien illustré ça. Donc, je vous encourage, si vous ne l'avez pas écouté, bien, les enregistrements sont disponibles. Je sais que Jonathan, si vous avez une clé USB, si vous n'avez pas d'Internet, bien, vous pouvez demander à Jonathan. Il va vous mettre ça sur une clé USB pour l'écouter. Sinon, bien, il y a notre frère Maurice, là, que justement, qui... J'avais mis ça pour justement nous rappeler le site, mais malheureusement, le site, il est fall ball pour l'instant. Mais en tout cas, c'est le site. Ça fait qu'à ce moment-là, bien, mais qui marche, on va pouvoir vous le dire. Ça fait qu'on peut l'écouter là, là-dessus aussi. Ça fait qu'en même temps, bien, je veux remercier Jonathan, Maurice, hein, je veux dire, s'encourager. Je veux dire, quand les choses marchent, tout ça, c'est parce qu'il y a des gens en arrière de ça. Ça fait que... Je vais être reconnaissant, moi, ici, de ça. Merci, Maurice. Merci, Jonathan. Merci pour tous ceux aussi, dans le fond, qui œuvrent. Hein, Lourdes s'est occupée avec des femmes, tout ça. On oublie des personnes. Tous ceux et celles, ce matin, qui font quelque chose au sein de notre Assemblée d'une manière régulière, tout ça. Bien, personnellement, je vous dis merci. L'Assemblée vous dit merci aussi. Puis, n'oublions pas de s'encourager dans ça. Donc, ça, c'est le troisième R, bien sûr. Le quatrième, bien... C'est redresser avec douceur. On est comme rendu là, un peu dans notre section. C'est ça qu'on va faire ce matin. Alors, prions. Hein? Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Seigneur, c'est une grâce. On veut l'apprécier, Père Céleste. Merci d'être ensemble avec chaque frère et sœur. Seigneur, bénis-les. Tu connais le cœur de chacun ce matin, là où on en est avec toi, dans notre marche, dans notre vie. Tu connais nos difficultés, Seigneur. Merci que tu es attentionné et bienveillant, Père Céleste. Alors, on se tourne vers toi ce matin encore. On veut te rendre grâce, on veut te bénir, Seigneur. On veut te suivre sur le chemin à lequel tu nous invites de nouveau ce matin. Alors, Seigneur, merci d'être là, merci de nous bénir. Et on se réjouit en toi, Seigneur Dieu. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, frères et sœurs, bien, ce matin, comme je disais un peu, on est rendu au point redressé avec douceur. Et puis, vous savez qu'en fait, bien, les mots qu'on utilise, c'est sûr, hein, vont jouer un rôle clé dans nos conflits ou dans la résolution de conflits. Lorsque nous utilisons les mots correctement, bien, ils vont permettre peut-être une compréhension. Parce que quand on a l'occasion de s'expliquer ou de s'exprimer, bien, on peut comprendre l'autre, on peut, justement, ça nous aide à comprendre, ça nous aide à pardonner, ça nous aide aussi à prendre des actions si nécessaire aussi, si on a besoin de prendre des actions. Alors, on comprend que les bons mots, c'est important. Hein? Puis malheureusement, il faut dire, bien, on a tous besoin de la grâce et de l'aide de Dieu dans ça. Parce que des fois, on ne l'a pas, des fois, on l'a mieux. Mais c'est toujours un processus aussi. Hein? On est dans un processus. Ça fait qu'un peu de voir ça, bien, chacun de nous, bien, on chemine là-dedans, puis on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de la patience, on a besoin de se soutenir, de s'encourager. Donc, les mots, c'est important. Si on les utilise bien, ça aide. Si on les utilise mal, bien, on comprend que ça peut aggraver ou ça n'aide pas du tout le rapprochement. Ça peut même contribuer à notre éloignement les uns avec les autres. Mais en même temps, bien, les mots, on comprend qu'il n'y a pas juste des mots. Qu'est-ce qui serait important aussi à part des mots? Hein? Oui, c'est sûr. Des actions vont venir aussi de notre attitude. Hein? C'est toujours de l'intérieur. Quelle est la disposition de notre cœur face à ça? Hein? Qu'est-ce qu'on veut de ça? Est-ce qu'on veut chercher à résoudre ça? Est-ce que aussi, comme on dit, bien, l'œuvre que Dieu fait dans notre cœur, qu'est-ce qu'il nous montre là-dedans? Puis, donc, notre attitude va nous amener dans des actions, dans des paroles. Ça fait qu'on a besoin des deux pour résoudre nos conflits, donc notre attitude, nos motifs intérieurs. Hein, des fois, bien, on peut être comme ça, là, hein, tout de suite, sur le moment, des fois, on va réagir parce qu'on est habitué de réagir. Il arrive quelque chose, on réagit. Ça fait que des fois, bien, on dit, bien, gars, tu vas voir, là, je vais lui dire ces quatre vérités. Hein, on va lui dire, on va le remettre à sa place. Mais on comprend que quand on fait ça, c'est pas aidant. On le fait, puis après ça, on dit « Ah non, j'ai raté mon coup. » Donc, des mots bien placés, avec une attitude aussi qui est en arrière de tout ça, bien, sans dire que ça va résoudre les choses, en tout cas, ça va contribuer à aider beaucoup. Mais ce matin, bien, l'idée encore là, c'est de ne pas se décourager, frères et sœurs. On est tous dans un processus. Ça fait que des fois, on l'a, des fois, on ne l'a pas. Mais là, on a des outils, on veut les utiliser, on veut s'encourager. Donc, par la grâce de Dieu, bien, ne nous décourageons pas. Ce matin encore, bien, on a la possibilité de progresser à communiquer d'une manière constructive. Donc, le R, un peu, bien, c'est redresser avec douceur. Ce matin, bien, ce qu'on va regarder un petit peu, c'est dire la vérité dans l'amour. Dites la vérité dans l'amour. Ça fait qu'un peu, quand on regarde cet énoncé-là, qu'est-ce que vous voyez juste par ça? Hein, on voit des paroles, on dit quelque chose, mais aussi on voit une attitude. On voit un état d'être qui est là, l'amour qui doit être présent. Mais
on voit aussi quelque chose qui est à redresser, peut-être?
Oui, tout à fait. Oui, ça peut être des choses à redresser, mais tu sais, ça peut être de l'instruction aussi. Tu sais, quand on instruit, normalement, on veut dire la vérité. Donc, hein? Mais bon, redresser, c'est sûr, le mot quand même là, peut nous laisser dans la direction justement de conflits ou de choses où ce qu'on a besoin de dire des choses. Puis effectivement, c'est ce qu'on veut voir surtout ce matin. Mais je veux dire la vérité dans l'amour, bien, on devrait le faire en tout temps. Pas juste pour redresser tout ça. Donc, on voit l'attitude. Ici, on voit des mots, on voit une motivation. Et ce matin, bien, ce qu'on va regarder, frères et sœurs, c'est, on ne couvrira pas nécessairement beaucoup de matériel, je me suis limité à quelques points. Donc, un peu le premier point où ce qu'on veut se souvenir, ou l'auteur aussi, ce qu'il veut nous apporter, c'est que quand on se parle, dans le fond, c'est ça, on devrait toujours avoir à l'esprit qu'on veut apporter de l'espérance. On veut apporter de l'espérance. On ne veut pas juste remettre quelqu'un à sa place, comme je dis, ça ne vaut rien. On veut apporter une espérance que dans ça, il y a un bienfait. Dans ça, on va grandir. Dans ça, on va marcher ensemble. C'est beau. Et puis ça, ça se fait, bien sûr, avec l'Évangile. Puis nous, on a ce privilège-là. Les non-croyants, l'Évangile, tout ça, eux autres n'utilisent pas ça. Nous, on a ce privilège-là de dire comment l'Évangile va venir me façonner, m'aider dans ma résolution de conflit. Et frères et sœurs, bien ce matin, bien je vais vous dire, moi si quelqu'un m'a déçu ou m'offense, bien je ne sais pas moi si vous êtes comme moi là, mais ma tendance naturelle, puis Brian un peu, je pense qu'il l'a partagé aussi dans son exemple, c'est de m'approcher à l'autre personne par la loi. Tu me fais quelque chose, tu dois payer pour ça. Tu dois répondre de ça. La grâce, d'habitude, n'est pas beaucoup là. On est exigeant, on exige de l'autre. Tu as fait ça, tu ne m'as pas fait ça, tu dois ça. Puis j'ai cette tendance-là à faire ça. Hein, on va dire, c'est mathématique. 1 + 1 = 2. Il arrive quelque chose, on réagit. On est sous la loi. On présente ça à la personne. C'est cartésien. Comment dire, c'est fret net sec. Bang! Puis c'est sûr que cette approche-là, bien, c'est pas aidant. On l'a tout expérimenté. Ça nous met sur la défensive, ça met l'autre personne sur la défensive, ça met de l'huile sur le feu. Mais ce matin, bien, le Seigneur, dans sa grâce encore, dans son amour bienveillant pour nous, bien, il veut nous aider. Il veut m'aider. Comment mieux se parler? Donc, ce qu'on voit ce matin, bien, puis un petit peu notre frère Étienne, quelque part, il nous l'avait déjà apporté à travers un livre aussi. Donc, au lieu de s'approcher des personnes avec la loi, on s'approche d'eux avec l'Évangile. En d'autres termes, au lieu de demeurer sur les choses que les gens devraient faire ou ont raté à notre égard, on apprend à focaliser premièrement sur ce que Dieu a fait et ce qu'il est en train de faire pour eux par Christ. Et cette approche est illustrée et ordonnée, on va dire, partout dans les Écritures. Et j'aimerais qu'on prenne l'exemple de Paul. Si vous avez vos Bibles, bien, je vous invite là, à tourner dans 1 Corinthiens au chapitre 1. On va voir comment Paul s'y prend, qu'est-ce qu'il veut nous donner aussi comme modèle, comme exemple, dans sa façon de communiquer lorsqu'il y a des choses difficiles à dire ou des conflits qui sont présents. Donc, si vous êtes dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 1. Donc, ça dit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu envers... attendez un petit peu. Oui, c'est ça, l'œuvre de Dieu envers ses... Attendez, j'ai copié ça, là. Je vais prendre ma Bible, ça va aller mieux. Donc, on est rendu au verset... 8. Donc, il vous affirmera aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Paul commence comme ça, puis quand on regarde là, les épîtres qu'il écrit, souvent il commence comme ça. Puis on va regarder un petit peu juste ce qui nous a amené, juste pour réfléchir, juste pour nous donner encore une ouverture, une compréhension, pour nous aider dans nos relations, lorsqu'on a à se parler, tout ça, pour avoir des mots appropriés, une attitude appropriée aussi. Donc, au verset 1, il dit « Paul, apôtre, appelé à être apôtre, hein, c'est un envoyé. » Puis souvent, Paul, il va le dire, c'est pas lui qui s'est placé là, c'est Dieu qui l'a placé là. Paul souligne ça aux gens, c'est un apôtre, donc, de Jésus-Christ, volonté de Dieu, c'est lui qui a décidé ça. Il met aussi le frère Sosthène, en tout cas, vous vous demandez peut-être c'est qui cette personne-là. Là. Si on regarde dans Actes 18, versets 12 à 17, c'est un ancien responsable de la synagogue, à Corinthe même. Puis, dans ce passage-là, là, il a passé un mauvais quart d'heure avec les Juifs. Ça fait qu'il s'est converti, Paul le souligne, il est à ses côtés. Qu'est-ce qu'il fait? Il souligne, bien, « Hey, il y a une église à Corinthe. Il y a une église. C'est vous autres. Vous êtes l'église de Dieu. » Puis, qui sont ceux qui font partie de l'église de Dieu? Bien, c'est ceux qui ont été sanctifiés. Paul dit ça. C'est ceux qui ont été mis à part pour Dieu, séparés du péché. Donc, on voit ici que Paul, quelque part, souligne une identité. Vous êtes des saints. Il s'adresse à des saints. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Puis en même temps, bien, il les appelle aussi à votre vocation, bien, puisque Dieu est saint, bien, on est appelé nous aussi à être saints. Donc, ils soulignent leur vocation aussi. Hey, vous êtes saints, mais vous êtes appelés aussi. Et bien sûr, tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur, leur Seigneur et le nôtre. Hein? Ce n'est pas juste mon Seigneur, c'est le Seigneur de la personne aussi, du croyant. Il ne faut pas oublier ça, c'est son Seigneur aussi. Puis là, au verset 3, il dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Il semblerait, bien sûr, frères et sœurs, que, puis Paul le voyait aussi, que nous avons besoin beaucoup de grâce et de paix. Hein? Souligne ça. Hey, que la grâce et la paix vous soient données. Vous en allez en avoir besoin. Puis on en a encore besoin aujourd'hui. Ce qui est beau, gars, on voit ça, là, c'est parce que par la suite, à partir du verset 10, là, il commence à aborder des problèmes que les Corinthiens vivaient. Il y avait des problématiques, ça fait qu'ils devaient redresser ça. Ça fait que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais habituellement, des fois, si on est en conflit avec quelqu'un, est-ce qu'on va avoir tendance à rendre grâce à Dieu pour cette personne-là? C'est dur. On va plutôt dire, Seigneur, régis son cours. Hein? Pardon? Ou enlève-le. Hein, on voit l'attitude de cœur de Paul aussi dans ça, avec ces personnes-là, avec lesquelles il doit apporter, il y a des situations qu'il doit régler. On voit son cœur, on voit son attitude, on voit qu'il prie, il rend grâce à Dieu pour eux. Donc, on voit qu'il y avait vraiment un intérêt sincère envers ces croyants-là. Il n'était pas juste là pour dire, je vais vous régler votre cas, là. Je vous ai à cœur. Je vous ai dans mon cœur. Puis bien sûr, par la suite, bien, hein, il dit, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole, la connaissance, le témoignage de Christ qui a été établi solidement parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein, il leur donne de l'espérance aussi, il va vous affermir, pour que vous soyez irréprochables quand on sera avec le Seigneur un jour. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. On voit l'attitude de Paul. On voit là qu'il se sert de l'Évangile. Avant d'aborder une des problématiques, il veut rehausser. Il veut souligner, dans le fond, l'identité de ces personnes à qui il va parler. Hein? Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez le Seigneur Jésus-Christ comme moi j'ai le Seigneur Jésus-Christ aussi dans ma vie. Vous êtes saint comme moi je suis saint aussi. Il souligne l'identité des frères et sœurs à qui il va s'adresser. Oui.
Il y a eu un dissentiment avec...
Oui. Avec tout à fait.
Et il y a une personne qui dit une civile discussion.
Oui. Ah oui, oui. Oui.
Et au chapitre 1er aussi, il y a eu une autre discussion concernant
oui.
les chrétiens, concernant la circoncision.
Tout à fait. Oui. Peut-être. Ben écoute, oui, tu as raison, Maurice. Puis tu sais, moi, quand je dis ça, là, je te dirais, moi, ce qui me fait croire dans l'Évangile, c'est que je vois que Paul est un humain. Puis, dans ça, gars, est-ce que c'était le meilleur choix qu'il a fait? Oui, il a pris cette décision-là. Puis, gars, on doit respecter ça aussi. Comme on dit, là, je pense que dans Paul, moi, ce que j'aime, autant que je lis l'Ancien Testament, je lis David, c'est ça, de voir l'humanité de ces personnes-là, ça me ferait croire que l'Évangile est vrai. Sinon, si ces gens-là sont parfaits, je n'ai pas d'espérance, moi, en tout cas. Je ne serais pas capable de vivre comme eux autres. Est-ce que Paul était parfait? Est-ce que Paul a pris toujours les meilleures décisions? Bien, je crois que non, parce que c'est un humain, malgré le fait que c'est un apôtre. Puis oui, dans la vie, on va prendre des décisions des fois. Puis écoute, ces décisions-là, je crois qu'on va essayer de les prendre les meilleures possibles. Est-ce qu'on peut se tromper dans nos décisions? Oui. Est-ce qu'on peut avoir raison aussi? Oui. Écoute, je pense que dans ça, bien, comme on dit un peu, ce que je veux souligner ce matin un peu, c'est ça, c'est plus une attitude générale, quelle devrait être notre attitude dans ça. Puis, gars, la décision que les gens prendront face à quelque chose, bien, gars, ça sera leur décision. Puis en même temps, bien, comme on dit, bien, on peut être prêt à vivre avec nos décisions, mais on peut se tromper, puis on peut avoir raison. C'est que Paul, quand je regarde ça ici, bien, je pense qu'il amène un principe général. Il y a une attitude de cœur qui est là aussi. Puis, dans tout ce qu'il y a eu à faire, bien, c'est certain. Il y a eu des décisions à prendre, tout ça. Puis, Maurice, merci de souligner ça, parce que c'est vrai. C'est présent. Puis, on a besoin aussi d'en prendre conscience de tout ça. Comme je dis, pardon, ce que je veux dire ce matin, bien, c'est ça, ce que je veux poursuivre aussi, bien, dans ça, bien, quand on regarde souvent, bien, si on vient de lire ça, souvent, bien, quand on est en conflit, souvent, on voit surtout la corruption chez les personnes. La personne me fait quelque chose, ou bien, elle a pas bien agi. On n'a pas de misère à voir la corruption, mais on a beaucoup de misère à voir la dignité de la personne. Cette dignité-là, bien, Paul la souligne. Hein? C'est notre identité dans le Seigneur. Puis même les non-croyants, ils ont cette dignité-là aussi qu'on ne voit pas souvent aussi parce qu'ils ont été créés à la ressemblance de Dieu. De voir la dignité, ça nous aide. Ça nous aide dans notre démarche, dans notre réflexion, dans notre cheminement. Et Paul ici, je crois qu'il souligne beaucoup cette dignité-là avant d'adresser le problème. Donc, dignité versus corruption, bien, les deux sont présents dans nos vies. Le Seigneur nous invite à être saints. Ça veut dire que quelque part, on va rater notre coup. On va devoir demander pardon. On va devoir se repentir. À d'autres moments, bien, on va réussir. Ça fait que la vie, ça va être ça jusqu'à un jour où on sera avec Dieu, bien, on sera parfait, on ne luttera plus avec ça, on ne chutera plus, on ne ratera plus, on ne se ratera plus. Pour l'instant, bien, le Seigneur veut nous aider, justement, c'est ça. Quand on comprend ça, ça nous aide pour cheminer dans tout ça. Au verset 10, hein, quand il est rendu au verset 10, Paul, il dit « Je vous exhorte maintenant ». Donc, là, il souligne un problème. Puis comme on l'avait vu dans le passé aussi, bien, il y a plusieurs problèmes que Paul souligne dans Corinthiens. Le premier problème, c'est, bien, c'est drôle, en fait, c'est l'unité. Hein, il y en a qui disaient, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Hein, Paul, il dit, non, ça ne devrait pas être ça. Donc, il y avait un problème, là, à ce niveau-là. Puis Paul, c'est le fun, ici, il dit, je vous exhorte. Quand on regarde le mot « exhorter », ça veut dire « venir aux côtés de quelqu'un pour l'aider ». Et quand on regarde ça aussi, bien, on voit que l'exhortation, habituellement, bien, on ne vient pas à côté de quelqu'un avec un bâton pour le frapper, pour y mettre du plomb dans la tête. Non, il vient à ses côtés pour les encourager à prendre une décision, à suivre ce que Dieu demande. Et puis, comme j'ai dit, bien, il leur adresse comme premier besoin ici le besoin d'unité. Dans Philémon, ce court épître, au verset 8 et 9, Paul s'adresse à Philémon. Il dit, bien, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul vieillard, et de plus, maintenant prisonnier de Jésus-Christ. En Paul ici, il dit, ben gars, moi, je pourrais utiliser toute mon autorité là, d'apôtre, là, puis t'exiger, là, puis faire vraiment, là, tu vas devoir faire ça. Non, il dit, c'est au nom de la charité. Hein, on comprend l'histoire de Philémon. Il y avait un esclave Onésime qui s'était sauvé avec de l'argent à Philémon. Puis Paul l'a rencontré à Rome, puis il s'est converti. Puis là, bien, maintenant, il est avec Paul, puis là, il écrit une lettre à Philémon par rapport à ça. Puis c'est une courte lettre, je vous invite à la lire, c'est vraiment beau. Ça qu'on voit l'attitude de Paul ici encore. Il ne veut pas prendre un bâton, il veut dire « Je t'aime, on va parler de ça, puis j'aimerais ça, considère ces choses-là. » Donc vraiment, une attitude de bienveillance, une attitude où ce qu'il considère Philémon, c'est un croyant, considère Onésime aussi, donc considère la dignité de ces personnes-là, et puis l'amène justement à réfléchir sur quelque chose d'important. Donc, un peu, c'est ça. Est-ce qu'on voit la dignité chez les gens avec qui on est en conflit? Qu'ils soient croyants ou pas? C'est dur. C'est dur. Puis de le considérer, bien, ça va nous aider à cheminer vers la résolution de conflits. Ça va nous aider justement dans nos attitudes aussi quand on se parle, quand on s'adresse les uns envers les autres. Donc, cette dignité-là qui est présente et qu'on a besoin de voir et que Paul souligne ici d'une belle manière. Autre point ce matin, bien, qui est important. Hein, je vous ai dit tantôt, bien, moi personnellement, bien, quand il arrive des choses, comment je vais réagir souvent, c'est par la loi. Quand on regarde ça, bien comme on vient de voir, qu'est-ce que la loi fait en général? Bien, elle voit la corruption. La dignité est très dure à voir. La loi va exiger, hein, c'est, la loi c'est ça, ça dit ça, t'as pas fait ça, il va t'arriver ça. Ça, c'est la loi. On est dur. Quand on est sous la loi, on est dur, on devient exigeant. De l'autre côté, bien, la grâce et l'amour voient la dignité de la personne ainsi que sa corruption. Ce n'est pas de mettre ça de côté. Mais souvent, nous, on voit juste la corruption. On ne voit pas la dignité. On ne voit pas l'œuvre que Dieu veut apporter dans tout ça. Et comme on vient de voir, bien, la grâce et l'amour vont exhorter. Hein, on va venir aux côtés de la personne. On va venir dans une attitude bienveillante, une attitude d'amour, de charité. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est ça. Venir sous la grâce, parce que nous avons été graciés. Parce que Dieu regarde la personne avec qui je suis en conflit comme une personne importante, elle a donné sa vie pour elle, autant que pour moi. Dieu veut faire une œuvre dans la vie de la personne, dans ma vie. Et ça, ça m'aide. Comme on dit, c'est jamais facile, ça. Quand tout va bien, hein, c'est comme les assurances. Ça va bien, ils sont contents. Là, tu as une petite affaire, tes appels. Oh, là, tabarouette, tu as oublié de lire là, les petits traits de caractère, là, puis là, ils sont exigeants, puis là, wow, là, ils sont sur la loi. Là. S'ils peuvent ne pas te payer, ils vont le faire. Tu dis, ah, il me semble qu'on s'entendait bien. Il me semble que... Ben non. Hein, attitude de bienveillance. Ça, on ne voit pas les sites qui portent dans leur cœur les Corinthiens. Ils rendent grâce à Dieu pour eux. Et puis, tantôt, Richard, bien, quand tu étais dans Colossiens, j'ai dit, ah, ben, j'ai pas besoin de parler. Brian donne un exemple de réconciliation. Richard, il vient dans Corinthiens, il va lire peut-être le passage que je voulais lire. Tu t'es presque rendu là, mais c'était une belle introduction à ça. Des attitudes de bienveillance. Autre point, quand on apporte la vérité dans l'amour, attitude de bienveillance. Hein, c'est des versets qu'on connaît bien, puis on va le lire, ça vaut la peine. Dans Colossiens, chapitre 3, donc, Colossiens, chapitre 3, verset 12, hein, c'est des versets qu'on connaît bien. Puis c'est des versets bienveillants dans nos relations. Hein, notre frère Richard nous avait parlé avant, là, quand on lit les passages, Paul exhorte les croyants à la sainteté, hein, à faire mourir les membres qui sont sur la terre. Renoncer à ces choses-là, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Il est en train de donner une direction aussi aux Colossiens qui vivaient sûrement ces problèmes-là, puisqu'il en parle. Puis qu'est-ce qu'il fait à travers tout ça? Bien, il vient ajouter ce verset-là, justement, qui est important pour aller vers ça. Donc, ça dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, encore là, bien, Paul souligne l'identité des frères et sœurs. C'est ça, des gens qui ont été choisis par Dieu, qui ont été élus par Dieu. Ils sont saints et bien-aimés. Il leur encourage, « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Hein, pour les Hébreux, un peu les entrailles, on va dire c'est les intestins, si on veut prendre un autre mot, bien, on dit que c'était le siège des affections les plus tendres. C'était là, c'est pour ça qu'ils utilisent ces mots-là, dire bien, par les entrailles, dans cet endroit où ce que la bienveillance et la compassion est présente. Ce qui dit, bien, revêtez-vous justement d'entrailles de miséricorde. Bien sûr, la miséricorde, on pourrait mettre ça comme synonyme aussi. Hein, on va dire, bien, revêtez-vous de miséricorde, revêtez-vous de compassion. Donc, la compassion, on dit, bien, on est touché par la souffrance et la misère des personnes. Des fois, on se demande, tu sais, des fois, on va dire, quelqu'un, lui, est empathique. Quelqu'un, lui, a de la compassion. On dit que l'empathie, bien, c'est plus... Ça fonctionne plus comme un simple miroir des émotions d'autrui. Je suis empathique, je vois là, que tu souffres, tout ça. Simplement, je reflète ce que la personne vit. Tandis que la compassion, on dit que ça implique un sentiment de bienveillance avec la volonté d'aider la personne qui souffre. Donc, on voit là, qu'il y a quelque chose de plus. C'est pas juste de comprendre, de refléter ce que l'autre vit, mais dans la compassion, bien, on voit qu'il y a une attitude plus grande encore, il y a une volonté d'aider la personne qui souffre. Donc, l'apôtre nous encourage à ce genre d'attitude-là. Revêtez-vous d'entraide, de miséricorde, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On dit que le mot douceur ici, c'est la volonté de subir les insultes ou les blessures plutôt que d'en infliger aux autres. Donc, Paul nous encourage à être revêtus de cette douceur-là dans nos vies. Il dit de patience aussi. Bien, on dit que le mot patience ici, bien sûr, on fait référence, on dit c'est l'inverse des éclats de colère, de ressentiment, de l'esprit de revanche. Elle permet d'endurer l'injustice et les circonstances défavorables dans l'espérance d'un prochain soulagement. Donc, voici ce que l'apôtre nous encourage, à la patience. On dit bien qu'au verset 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Donc, un peu, on dit ici qu'une bonne traduction peut-être de ce mot-là, du lien de perfection, ça dit « c'est le lien parfait d'unité ». Donc, si on veut vivre cette unité-là, bien, c'est à travers l'amour que nous allons pouvoir vivre cette situation-là. Dans Romains 12, je termine avec ça, frères et sœurs. Donc, dans Romains 12, bien, même chose de la bienveillance à laquelle nous sommes appelés. Donc, des courts versets. Au verset 12, au chapitre 12, Romains, verset 17, Paul dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, bien, ce verset qu'on a vu aussi, « Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Alors, on est appelé à remettre ça au Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, bien, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Et puis, c'est sûr, bien, regarde, l'ennemi, si on fait ça à l'ennemi, tout ça, bien, c'est sûr qu'il va bien se demander qu'est-ce qui se passe, là. D'habitude, on ne fera pas naturellement pas ces choses-là. Et verset 21, bien, qui conclut bien, puis qui résume bien, dans le fond, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Donc, on est invité à faire le bien. C'est ça, comme je disais au début, frères et sœurs, bien, je me rends compte que dans ma vie, bien, si quelqu'un me déçoit ou m'offense, bien, ma tendance naturelle, c'est de réagir par la loi et non par l'amour et la grâce de l'Évangile. Et souvent, je réalise, bien, que Dieu veut premièrement faire une œuvre dans mon cœur et non pas dans le cœur de l'autre. Et on a de la misère des fois à voir ça, moi j'ai de la misère à voir ça aussi. Puis dans ça, bien, je me dis, Seigneur, tu veux faire une œuvre premièrement en moi, tu veux m'emmener plus loin, tu veux me transformer, tu veux m'aider à résoudre la situation. Comme je disais, bien, frères et sœurs, je n'ai pas de difficulté à être un discoureur naturel de la loi, peut-être apportant plus facilement le jugement que la grâce. Peut-être ressentez-vous aussi cette mauvaise tendance chez vous, et que vous avez besoin de ce changement. Comme j'ai dit bien ce matin, bien, le Seigneur veut nous encourager, il veut nous aider à poursuivre, à persévérer, à aller de l'avant, et le but de tout ça, dans le fond, frères et sœurs, c'est ça, c'est de s'aider à marcher de progrès en progrès. Donc, on pourrait dire cette semaine, bien, peut-être vous le faites déjà, bien, priez pour moi, prions les uns pour les autres, cette requête, et pour que le Seigneur nous aide justement à grandir dans ce domaine. Puis c'est sûr, en tout cas, moi je regarde ça des fois, là, j'aime le sport, puis là, dernièrement, je voyais ça, là, il y avait comme une espèce de reportage là, sur la rivalité des Nordiques avec le Canadien. Puis, je veux dire, ceux qui ont suivi ça dans le passé, bien, on va essayer de me déplacer, là, je ne sais pas qui fait ça, là. C'est le hacker encore, je pense, qui essaye de... C'est ça, je veux dire, hein, je regardais ça dans le passé, canadien-nordique. C'est sûr, c'était une rivalité, c'était intéressant, mais en même temps, quand on regarde d'un point de vue humain, c'était pas très beau. Les journalistes se chicanaient, s'haïssaient, les coachs s'haïssaient, les joueurs se haïssaient. Puis là, tu regardes plusieurs années après, puis plusieurs vont le dire eux-mêmes, à ce temps qu'ils sont rendus vieux, ils regrettent ça. Tout le temps qu'ils ont perdu, à rester en chicane, en conflit, en vouloir aux personnes. Puis je me disais, bien, c'est vrai qu'on n'apprend pas. Bon, je n'irai pas là. C'est vrai qu'on n'apprend pas. On dit, bien, il ne devrait plus avoir de guerre. Bien, oui, il va en avoir encore. Parce que on cherche le trouble souvent. Puis je me dis, bien, en voyant ça, frères et sœurs, bien, en tout cas, comment qu'on peut s'encourager justement dans ça aussi, à dire, bien, quand ça ne va pas entre nous, on peut-tu essayer de faire quelque chose? Plus. Voir notre dignité. Pas juste le mal qu'on fait. Puis, comme on dit, du mal, je vais en faire, on va m'en faire. Faisons pas comme ces joueurs-là, tout ça, qui peut-être plus tard, on va regretter justement ça. Puis la résolution de conflit, bien, c'est à ça que ça veut nous emmener. À ne pas attendre. À chercher. Puis par ça, bien, c'est sûr, bien, il faut avoir des attitudes qui veulent nous emmener à ça. On a besoin de, comme je dis, j'ai besoin de prière pour ça. On a besoin de prière, chacun de nous, à se parler, à être bienveillant, à essayer de se comprendre. Puis à travers ça, bien, gars, s'il y a des choses qui ont été mal faites, bien, on reconnaît ça, reconnaissons-le. C'est ça. Puis, c'est ça. Essayons de voir l'autre aussi dans ça. Ça fait que c'est toujours une attitude, c'est pas facile, puis je pense qu'on lutte tout avec ça. Moi, je lutte avec ça aussi. Puis, encourageons-nous, frères et sœurs, poursuivons la prière dans ça, que ce qu'on voit, bien, que ce soit pas juste quelque chose qu'on dit, qu'on trouve ça pas pire, c'est bien, mais on dit, j'en ai besoin dans ma vie, moi j'en ai besoin, puis je sais que vous en avez besoin, vous autres aussi, puis c'est ce que vous voulez aussi. Ça fait que prions, frères et sœurs. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur, d'être venu à notre rescousse alors qu'on était tes ennemis, Seigneur. Tu as décidé de nous réconcilier. Tu as permis cette réconciliation. Ça a coûté le prix de la vie de ton Fils Jésus, Seigneur. On te dit merci. Puis, Seigneur, tu nous invites aussi à vivre cette parole de réconciliation, Seigneur. On te rend grâce, justement, pour ce salut. On te rend grâce aussi pour... cette réconciliation aussi, de pouvoir vivre en paix, Seigneur, les uns avec les autres. Seigneur, on a besoin de toi, j'ai besoin de toi. C'est ça, Seigneur. Viens à ma rescousse aussi dans ça, que je puisse faire preuve de grâce, Seigneur, d'amour, de reconnaissance, de bienveillance. Seigneur, pas juste regarder à moi-même, mais aussi regarder aux gens qui sont impliqués ou en cause. Seigneur, c'est pas juste moi, tu es là dans ça. Alors, on te dit merci, Seigneur Dieu. Merci de prendre soin de nous. Seigneur, encore, on veut te bénir. Merci là pour tout ce que tu fais, Seigneur. On te prie encore pour cette parole de réconciliation qui pourra aussi être apportée avec les Guatémaltais. Ce soir, on te prie pour cette communauté, Seigneur, ces gens qui sont loin de leur famille, qui vivent dans une autre culture, un autre climat, une autre langue. Seigneur, on veut être compatissant, on veut être bienveillant aussi. Merci là, pour encore les frères et sœurs, tous ceux qui ont participé à monter tout ça, Seigneur. Alors, on te bénit, on te dit merci pour tout. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen.